Géopolitique. Marie-France Chatin.
Bonjour à tous et bienvenue dans Géopolitique que vous pouvez également écouter en podcast. Fin de l'isolement diplomatique de Moscou et soutien de Washington à la Russie, à l'ONU, marquant un véritable rapprochement. Mise au pied du mur de l'Europe, désormais sommée d'assurer sa propre défense. La guerre d'Ukraine qui vient d'entamer sa quatrième année plonge le droit international et l'ordre établi après la Seconde Guerre mondiale dans un véritable gouffre. Voilà l'échiquier géopolitique mondial renversé alors que se joue la survie de l'Ukraine en tant qu'État souverain et indépendant et l'avenir de l'Europe. L'Europe qui a toujours su que sa relation avec la seconde administration Trump serait difficile, mais les électrochocs qu'elle a reçus ces derniers jours constituent une crise en même temps qu'un défi, alors qu'elle n'a ni anticipé sur le dénouement du conflit, ni préparé les différents scénarios post-guerre. Nos invités, Nicole Niesoto, vice-présidente de l'Institut Jacques Delors et professeur émérite au CNAM, son dernier ouvrage « Choisir l'avenir, 10 réponses sur le monde qui vient » au CNRS édition. Bonjour.
Bonjour Marie-France Chatin.
Et Jean-Pierre Moulny, directeur adjoint de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Bonjour.
Bonjour.
Avec ce qui s'est passé cette semaine à New York, le moins que l'on puisse dire est que la relation transatlantique vient d'entrer dans une nouvelle phase. Déjà au sommet de Munich sur la sécurité en Europe, les Européens ont écopé d'une douche froide. Est-ce qu'il faut craindre un délitement de l'Alliance Atlantique et la fin du monde tel que nous le connaissons? Votre avis également sur la portée de ce qui s'est passé à l'ONU, les États-Unis soutenant la Russie sur des textes concernant l'Ukraine. Nicole Niesoto.
Je crois que le vocabulaire que vous utilisez, Marie-France, est faible. Il ne faut pas craindre le délitement de l'Alliance Atlantique, il faut constater la fin de l'Alliance Atlantique. Et je pense qu'il faut arrêter de croire, d'espérer, d'attendre un retournement de la situation. Beaucoup d'Européens, de nos partenaires européens, sont dans cette attitude. Moi, il me semble que Donald Trump est « on ne peut plus clair ». Il va taxer de 25% ses partenaires européens, donc il est le plus grand adversaire économique de l'Europe. Il dit qu'il ne nous protégera pas dans nos missions de sécurité en Ukraine et peut-être au-delà. Donc il est, je crois, traître à la sécurité de l'Europe. Et ses acolytes vantent le fascisme et font des saluts nazis à tour de bras. Donc, il est également l'ennemi de la démocratie. Et donc, avec tout ça, le commerce, l'idéologie politique et la sécurité, eh bien, sur ces trois points, Donald Trump est en position de rupture par rapport à la politique américaine traditionnelle. Et donc, il faut acter la fin d'une alliance atlantique. Ce qui ne veut pas dire la fin de relations euro-américaines, mais l'idée même d'une alliance, c'est-à-dire qu'on meurt les uns pour les autres devant des menaces qu'on identifie communes, parce qu'on a la même vision du monde et la même vision de nos intérêts dans le monde, cette idée même là, elle est morte. Et ce que vous rappelez, le vote des États-Unis avec la Russie, la Corée du Nord et l'Iran contre la proposition européenne sur l'Ukraine à l'Assemblée générale des Nations unies. Donc, ce n'est pas un vote qui a une valeur politique, c'est un vote qui a une valeur symbolique. Eh bien là, le symbole est, on ne peut plus clair, la trahison américaine est actée. Mais on peut aussi avoir à l'inverse, c'est-à-dire que Donald Trump s'est mis volontairement dans le camp des dictateurs. Voter avec la Russie, l'Iran et la Corée du Nord, quand on est les États-Unis d'Amérique, contre l'ensemble des autres de la communauté internationale. La Chine s'est abstenue. Mais quand même, il est tout seul. Il faut renverser les choses. Donald Trump est un nouveau partenaire des dictatures mondiales, des grandes dictatures mondiales, et il est seul de leur côté. Le reste de la Terre soutient l'Europe. Il faut quand même voir que le rapport de force, en tout cas au niveau démographique et au niveau de la politique mondiale, le rapport de force est du côté des Européens. Mais le problème, c'est que nous n'avons pas la force militaire.
On en parlera, Jean-Pierre Moulny.
Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter par rapport à ce qu'a dit Nicole Niesoto. Je suis à 100% d'accord avec ce qu'elle vient de dire. Et je pense qu'effectivement, il faut dire les choses franchement et clairement. Aujourd'hui, il n'y a plus d'alliance atlantique. Alors après, on pourra se poser la question de l'OTAN, parce que l'OTAN est un outil. Et qu'au fond, cet outil, on pourrait l'utiliser pour nous. Mais ça, c'est une question qui va venir ultérieurement. Non, ce qu'on peut regretter, c'est vrai véritablement, le fait que les Européens, depuis un an, sachant qu'il y avait cette élection aux États-Unis et qu'il y avait de fortes chances que Trump soit élu, ne se soit pas posé cette question et n'ait pas anticipé ce qui s'est passé. Et ça, c'est quand même assez grave. Alors, c'est vrai que nous aussi, Français, on était un peu coincés par les élections, le fait qu'on avait des questions intérieures à traiter, le fait qu'on a toujours été accusés de sortir les Américains d'Europe, alors que les Américains se sont sortis tout seuls d'Europe. Ça, franchement, la France n'y est pour rien. Et le retournement de situation, alors on va voir ce que va faire l'Allemagne, mais j'étais, agréablement surpris et en même temps, j'ai souri quand le nouveau chancelier allemand a dit qu'il fallait une défense européenne indépendante, alors qu'on a ramé pendant des années pour essayer de faire passer, nous Français, le terme d'autonomie stratégique et qu'on nous a dit « Oh non, 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 surtout n'employez pas ce mot, vous allez sortir les Américains de l'Europe et de la sécurité de l'Europe ». Mais simplement, il faut maintenant, nous on l'acte, mais il faut que les dirigeants européens l'actent, et très vite.
Alors, ce manque d'anticipation, il étonne beaucoup de gens dans le monde, Nicole Niesoto. Est-ce qu'on peut le mettre sur le compte de la désunion européenne ou pas seulement ?
Non, ça, je ne crois pas. Le manque d'anticipation, je pense qu'il n'était pas propre aux Européens. Personne n'a imaginé, ni Zelensky, ni même Poutine, qu'il trouverait dans le nouveau président américain un allié de la Russie contre l'Europe. Personne n'a imaginé ça. Et je pense que beaucoup d'Américains, y compris les gens du département d'État ou du Pentagone, en sont encore bouche bée. Parce que de facto, Trump a pris le parti de la Russie contre ses alliés. C'est-à-dire, si on n'appelle pas ça une trahison en langage diplomatique, je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas anticipé, mais il n'y a pas à pointer du doigt la bêtise ou la naïveté particulière des Européens. Trump est tellement excessif que c'était hors de pronostic. Ce qu'on avait prévu, c'est la possibilité d'un accord avec l'Ukraine, mais où nous serions associés, où Zelensky serait partie prenante et où que tout ça se le ferait au nom de la démocratie et de la défense de la souveraineté de l'Ukraine. Or, ce n'est absolument pas le cas. Mais les raisons donc pour lesquelles on n'a pas anticipé, je pense que c'est plus des raisons culturelles, enfin historiquement culturelles, si je puis dire, parce que les Européens sont baignés de cette culture née à la fin de la Seconde Guerre mondiale, selon lequel l'Amérique est l'allié éternel, permanent, que l'Amérique est le leader de la démocratie depuis 1776, je crois, ou 18, je ne sais plus quelle est la date de l'indépendance américaine, qui sont le leader de la démocratie, qui sont le leader de la défense de l'Europe, et c'est devenu une espèce de profession de foi, comme nous tous dans cette salle, comme nous trois dans cette salle, nous pensons que nous avons deux bras. Ce qui est vrai, eh bien, les Européens pensaient que l'Amérique était l'ami éternel. Et je dois dire, sans être particulièrement cocorico, que les Français, comme d'habitude, avaient raison. Le général de Gaulle a été le premier à dire, non pas qu'il n'avait pas confiance en l'Amérique en tant que telle, mais que quand on risque sa vie pour quelqu'un, eh bien, on peut quand même se demander quelle est la situation tellement grave qui vous amènerait à risquer votre vie pour quelqu'un d'autre. Et le général de Gaulle avait conclu que l'alliance avec les États-Unis était réelle, mais pas fiable à 100%, et que c'est pour cela qu'il fallait que la France ait une contre-assurance de défense indépendante. Mais nous étions les seuls, et on nous a tellement reproché pendant des décennies de ne pas être des bons Atlantiques, de ne pas avoir confiance à l'Amérique, de vouloir détruire l'OTAN pour construire l'Europe, sauf que maintenant tout le monde reconnaît qu'il y avait quelque chose de vrai dans cette intuition gaulliste de la France, que ça se révèle aujourd'hui, et qu'il est urgemment temps de construire l'Europe de la défense.
Alors, on va y venir à cette Europe de la défense, bien évidemment. Évidemment, ça fait partie des défis qui se posent à l'Europe aujourd'hui. Mais d'abord, fin de l'Alliance Atlantique, qu'est-ce que ça veut dire, Jean-Pierre Moulny ?
Ça veut dire qu'il faut que les Européens prennent conscience qu'ils sont maintenant seuls responsables de leur sécurité et qu'il faut qu'ils prennent cette sécurité en main. D'une certaine manière, ça commençait déjà à être le cas auparavant, parce qu'on voyait bien déjà que sous Biden, Et même avant sous Obama, on avait demandé quand même aux Européens de prendre plus en compte leur sécurité. Voilà, donc après il y a une question quand même qui va se poser, qui est une question très à la fois précise mais qui implique véritablement de quoi exactement on bénéficie pour la sécurité de l'Europe. C'est qu'il y a quand même un plan de planification stratégique de l'OTAN, le NDPP, et il faut qu'on sache très rapidement, est-ce que les Américains sont, oui ou non, impliqués dans ce plan ? Est-ce qu'on aura les forces américaines liées au NDPP pour la sécurité de l'Europe ? Et là, il faut que les Européens, très rapidement, posent la question. Il faut qu'ils posent la question à l'OTAN, il faut qu'ils posent la question aux États-Unis, parce qu'il faut qu'on sache exactement, est-ce qu'il existe encore une garantie de sécurité américaine ? Moi, je pense que non. Et je pense qu'effectivement, il faut faire sans eux. Mais ça, c'est absolument nécessaire. Après, la sécurité européenne, bah, elle peut se faire à la fois avec l'outil otanien et avec tout ce qui se construit au niveau de l'Union européenne. Simplement, maintenant, il faut véritablement accélérer tout ça pour prendre des décisions qui sont beaucoup plus collectives.
NDPP, juste, Jean-Pierre Monnier.
C'est le NATO Defense Planning Process, c'est-à-dire c'est le système de planification des capacités des pays membres de l'OTAN pour défendre notamment le continent européen. Donc c'est ce qui organise en fait la sécurité collective des Européens.
Alors, on a évoqué à propos de l'OTAN, Nicole Nisotto, cette nécessité pour l'Europe peut-être de faire montre d'un acte assez catégorique. Parmi les éventualités, il y avait quitter l'OTAN. Est-ce que ce serait cohérent pour l'Europe de quitter l'OTAN ?
Alors, tout ça est quand même très complexe. Et il y a un constat politique de long terme, qui est quand même la fin de l'Alliance, et une réalité de court terme, qui est que les Américains sont quand même encore là. Ils ont 100 000 hommes en Europe, ils ont des bases nucléaires dans 4 ou 5 pays de l'Union européenne, et que pour l'instant, ils n'ont pas annoncé de départ de troupes.
Ils en ont très envie, mais ils ne l'ont pas annoncé.
Ils en ont peut-être envie, mais ils ne l'ont pas annoncé. Autrement dit, la grande difficulté pour les Européens, c'est de gérer cette transition entre un monde dont on sait qu'à terme, une Europe en tout cas, à terme, pas forcément long terme, disons dans 10 ans, dont on est à peu près sûr que l'Amérique ne sera plus partie prenante en matière de défense, ça c'est, et de gérer en même temps le court terme, où ils sont là, où on a envie qu'ils restent là, ne serait-ce que pour le déploiement éventuel d'une force en Ukraine, après un cessez-le-feu. Et donc, c'est cette transition qui est très difficile. Et je crois que les Européens, aujourd'hui, le jeu difficile, c'est de dire aux Européens, restez, on a besoin de vous, donnez-nous encore quelques garanties sur l'Ukraine, si on déploie une force européenne, est-ce que vous serez là, dans l'espace aérien ou en matière de renseignement.
Le fameux filet de sécurité.
Voilà, restez avec nous en filet de sécurité, on leur dit ça, mais en même temps, il faut qu'on se prépare à faire sans eux. Et c'est cette transition qui va être politiquement difficile en Europe, et on le voit déjà, un certain nombre de pays, dont la Pologne, mais sans doute aussi l'Allemagne, vont jouer sur les deux discours. Ça ne veut pas dire qu'ils sont ambivalents, ambigus ou hypocrites. Ça veut dire que la situation aujourd'hui est ambivalente, qu'il faut essayer de maintenir le maximum de garanties américaines, parce qu'on n'est pas prêt à nous défendre nous-mêmes contre si la Russie demain envahissait la Pologne, et en même temps, préparer cette grosse défense, solide défense européenne à venir. C'est un peu, si on prend, ça me vient à l'esprit, je ne sais pas si c'est pertinent, mais la métaphore du gâteau. Avant, l'OTAN, c'était le gâteau, c'était l'Amérique, et les Européens, leur effort de défense, c'était la cerise sur le gâteau. Maintenant, on peut dire que ce sera l'inverse. La défense, ce sera l'Europe. Et éventuellement, on aimerait bien avoir une petite cerise sur le gâteau, une petite cerise américaine. Les termes se sont complètement renversés, mais je crois que dans cette transition, dans la réalité de la transition, il faut tout faire pour que les Américains restent présents et tout faire pour se préparer pour quand ils seront absents.
Et tout cela va prendre du temps, bien évidemment. Enfin, on parle au moins 10 ans, Jean-Pierre Moulinier, pour pouvoir prendre la relève du soutien américain en termes de défense en Europe. Enfin,
de toute façon, il y a une question qui va se poser, c'est peut-être qu'on devra prendre la relève tout de suite. Et donc, à ce moment-là, je veux dire, la question se pose même pas, on doit faire. Alors après, il faudra certainement faire plus, mais il est possible qu'on prenne la relève tout de suite. La question du filet de sécurité, c'est une bonne question. Je ne sais pas s'il y aura des forces européennes déployées en Ukraine à un moment donné, mais la question qui est posée aux Américains, elle est clé. Si la réponse, comme je le pense, est non, bah ça veut dire que ça y est, il faut faire sans eux tout de suite. Voilà. Après, construire un outil de défense, je ne pense pas que ce soit nécessaire non plus de passer en économie de guerre comme les Russes, c'est-à-dire à 7-8% du PIB consacré à la défense. On est aujourd'hui à 2%, on parle de 3%, mais là aussi, on ne va pas passer à 3% du jour au lendemain. En fait, quand on a un budget de défense, il faut bien voir que quand on augmente le budget de défense, c'est des questions d'investissement. Vous avez deux façons de procéder. La façon avec laquelle ont procédé les Allemands, c'est-à-dire avoir un fonds spécial, conséquence du fonds spécial, ils ont acheté du matériel américain. Et ils ont dépassé à toute vitesse, comme si on vous donnait une somme d'argent énorme, on vous envoie au supermarché, et on vous dit, vous avez une demi-heure pour tout dépenser. C'est ce qu'ont fait les Allemands. Ce n'est pas la bonne façon de procéder. Et il faut véritablement monter en puissance. Mais ça va se faire sur le long terme. Il ne faut pas dire aux Français que du jour au lendemain, on va dépenser 25 milliards de plus pour la défense. Ce n'est pas vrai. C'est impossible en plus. Mais c'est impossible parce qu'on ne saurait pas dépenser. Donc tout ça va se construire progressivement. Le tout, c'est simplement de montrer qu'on a une capacité, j'ai envie de dire dissuasive vis-à-vis des Russes, qui montent en puissance. Et c'est ça l'important. C'est le message qu'on donne.
Capacité dissuasive vis-à-vis des Russes, ce qu'on sent aussi, c'est cette nécessité pour l'Europe, Nicole Niesoto, il ne reste pas beaucoup avant la fin de cette première partie, on poursuivra dans la seconde, cette nécessité pour l'Europe de se reconfigurer, de changer d'image et de réoccuper la scène internationale de manière plus...
Oui,
plus offensive.
Mais je crois que cette révolution psychologique, elle est, à mon avis, elle prendra plus de temps que la révolution militaire européenne. Parce que, voilà, ça fait 70 ans qu'on a construit l'Europe sur deux images qui sont profondément ancrées dans les dirigeants et dans les populations, qui est l'Europe, c'est la paix. Le 21e siècle, c'est la paix, c'est fini les grandes guerres, ça c'est profondément ancré chez tout le monde. Et deuxièmement, la défense, c'est l'Amérique. Et donc, ça, c'est une révolution psychologique qu'il faudra faire et qui, à mon avis, prendra du temps. Sur le plan militaire... Pardon, si on continue sur ce volet politique, enfin psychologique et politique, certains pays vont plus vite que d'autres. Moi, je suis frappée de voir qu'entre la France, la Nouvelle-Allemagne, la Pologne et le Royaume-Uni, ouais, même s'il n'est plus dans l'Union européenne, il y a une convergence très nette de l'analyse du monde et de la nécessité pour l'Europe de se défendre. Dans d'autres pays, pour des raisons très légitimes, mais qui ne sont pas partagées par d'autres, dans d'autres pays, ils n'arrivent pas, non, toujours pas à concevoir leur destin sans l'Amérique. Ce sont les pays aujourd'hui les plus menacés, comme les Baltes, la Finlande, la Suède, et il faut les comprendre. Ils sont vraiment à deux pas. Et puis, d'autres pays, pour des raisons de politique intérieure, Madame Meloni est quand même dans une position délicate.
En Italie.
Mais je pense qu'elle y viendra. Je pense qu'il y a, là, on voit en train de se faire une Europe, pardonnez-moi d'employer l'expression, parce qu'elle est considérée comme injurieuse par nos partenaires. Alors, je ne sais pas comment dire, mais c'est une Europe des pays militaires, une Europe des pays stratégiques importants. Normalement, je serais tentée de dire une Europe des grandes puissances militaires, c'est-à-dire les cinq grands, la France, l'Allemagne, la Pologne, l'Italie, l'Espagne, plus le Royaume-Uni. Et ça, on le voit apparaître aujourd'hui.
On redémarrera la deuxième partie de l'émission avec cette idée. Nicole Niesoto, on vous retrouve, ainsi que Jean-Pierre Moulinier, après le journal. À tout de suite.
Géopolitique. Marie-France Chatin.
Confiée en Ukraine, l'Europe dans l'obligation d'agir. Nous retrouvons nos invités. Nicole Niesoto, vice-présidente de l'Institut Jacques Delors et professeur émérite au CNAM. Son dernier ouvrage, Choisir l'avenir, 10 réponses sur le monde qui vient, au CNRS édition. Et Jean-Pierre Molny, directeur adjoint de l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques. Nicole Niesoto, je vous ai interrompu pour laisser la place au journal sur les défis qui sont ceux de l'Europe aujourd'hui. On a évoqué les notions politiques. Sur le plan militaire, l'Union européenne à 27 aujourd'hui, c'est compliqué. On a évoqué les divisions qui ont cours. Une Europe des pays militaires est quelque chose qui, selon vous, s'impose et assez vite.
Je pense que les pays qui ont un vrai arsenal militaire, une culture militaire par leur histoire, par leur position, etc., ont une responsabilité aujourd'hui particulière pour entraîner les autres, les pays neutres, les pays tout petits qui n'ont pas de grande puissance militaire.
On renomme ces pays, la
alors,
France...
C'est pour ça que je pense que le cœur, c'est la France, l'Allemagne, la Pologne, l'Italie, l'Espagne. À eux cinq, ces pays font à peu près 80% du potentiel militaire de l'ensemble de l'Europe, et ces cinq, à mon avis, il faut leur ajouter, avec un traité quelconque d'association, le Royaume-Uni. Donc si on a ces 5 plus 1, à mon avis, ce noyau dur européen peut avoir un rôle d'entraînement des autres, de leadership, pour accélérer le mouvement en faveur d'une défense. Mais là, je voudrais dire deux choses. Premièrement, ça ne sera pas un processus communautaire. Je veux dire, cette idée d'une défense européenne dans l'Union, ça n'a de valeur que quand on parle du renforcement de l'industrie de défense. Ça n'a pas de sens si on parle de la constitution d'une vraie capacité de combat européenne, si on parle d'une organisation de défense européenne. C'est ça qu'il faut, une organisation de défense européenne.
Des mutualisations.
Tout cela sera hors Union européenne dans un cadre ad hoc, purement intergouvernemental, parce que c'est la règle. Quand on risque la vie des citoyens, on ne peut pas le faire par méthode communautaire. Personne n'acceptera jamais ça. Donc, voilà, ces cinq-là, qui sont aussi les cinq grands producteurs d'armement de l'Union européenne, à mon sens, ont une responsabilité particulière pour commencer et faire adhérer les autres à ce mouvement de constitution d'une défense commune. Alors, dans ces autres, toujours, si on mélange le militaire et le politique, il y a évidemment des pays que moi, je ne souhaiterais pas défendre s'ils étaient attaqués, parce que ce ne sont plus des démocraties. Je pense, par exemple, à la Hongrie, qui est pro-Poutine comme c'est pas permis, à la Slovaquie, à la Serbie qui n'est pas membre de l'Union européenne mais qui est candidate et qui normalement devrait rejoindre l'Union européenne et qui est un pays pro-russe également sans aucune ambiguïté. Donc quand on parle de défendre l'Europe, on parle pas simplement de défendre des territoires. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que la défense militaire doit être accompagné d'une défense de la démocratie. Parce que ça a toujours été le cas dans nos pays. Et donc, défendre des pays qui seraient à l'extrême droite, à mon avis, n'est pas un bon argument. C'est pour ça que la constitution d'une défense européenne sera aussi un facteur de fracture au sein de l'Union européenne, mais de fracture, je dirais, positive, saine. Bénéfique. Et les pays qui veulent devenir des alliés de Poutine, eh bien, qui partent de l'Union européenne.
Absolument. On pense bien sûr, et vous l'avez évoqué, la Hongrie de Viktor Orban, faire accepter à Orban que changer de camp a des conséquences.
Absolument, absolument. La Hongrie, aujourd'hui, touche en fonds structurels et en budget de l'Union européenne 4% de son PIB, l'équivalent de 4% de son PIB tous les ans, de versement européen. Bon, alors on n'est pas comme Trump, on ne va pas lui demander de rembourser, mais il y a un moment où les Hongrois doivent faire leur choix.
Jean-Pierre Molny, ça peut être une chance tout ce qui se passe là actuellement pour l'Europe ?
Déjà, le premier point, effectivement, si vous avez pu aller aux États-Unis pour défendre l'Europe, c'est les grandes puissances militaires européennes qui vont prendre le lead. Et ça, je pense que ça va se faire naturellement. On voit bien ces idées de... Il y avait le E3 autrefois, Royaume-Uni, France et Allemagne. Là, on est dans un format E5 avec la Pologne, l'Espagne, voir ce que va faire l'Italie. Et d'une certaine manière, je pense que les autres pays vont attendre aussi ce leadership. Parce que je pense que tout le monde en a besoin à un moment. La question de la Hongrie me semble finalement... Bon, ils seront neutralisés dans cette histoire, donc je suis pas trop inquiet sur le sujet. Non, il y a une autre question qui se pose, véritablement la carte du monde. Et ce qui est en train de se passer peut être une chance, parce que ce qui est en train de se passer ces dernières années, c'est qu'on avait tout ce discours The West and the Rest. Et The West, c'était les États-Unis et les Européens ensemble contre le reste du monde et notamment le Sud. Et ça nous donnait une image extrêmement négative. Nous, Européens et nous, Français, dans le Sud. Et d'une certaine manière, c'est aussi ce dont on a souffert en Afrique. Là, on a une occasion peut-être fantastique de dire « Eh ben, l'Europe existe, et l'Europe existe sans être ni la Russie, ni les États-Unis, ni la Chine, avec, je pense, toujours ce discours de paix, mais en même temps, en ayant une Europe qui sache se défendre. Maintenant, la difficulté qu'on va avoir, c'est que ça, c'est de la grande politique. Est-ce que nous, Français, déjà, on est capable nous-mêmes de formaliser une telle politique et après, de la vendre à nos principaux partenaires européens en disant, mais regardez le monde maintenant tel qu'il se présente. On a intérêt à donner une image différente de l'Europe et qui se positionne comme un facteur de paix, mais qui n'est ni la Russie, ni la Chine, ni les États-Unis.
Nicole Niesoto, vous souhaitiez commenter ?
Rajouter quelque chose ? Je trouve que c'est juste qu'on a intérêt effectivement à apparaître comme une identité propre dans le monde des puissances globales. Ça ne nous enlèvera pas nos responsabilités éventuelles pour le passé, mais en tout cas, le fait qu'on soit, entre guillemets, aujourd'hui, victime d'une agression russe et d'une forme d'agression américaine, nous rapproche des pays du Sud. Nous sommes des victimes, comme eux l'ont été, ou comme eux se perçoivent. Ils se perçoivent victimes de la suprématie et de l'arrogance occidentale. Si une partie de l'Occident, l'Europe, est également victime de l'arrogance et de la suprématie américaine, ça nous rapproche d'eux. Et alors ça, c'est vrai au niveau de la grande politique. Maintenant, sur le Congrès, je trouve qu'on pourrait déjà essayer d'en faire une réalité. Par exemple, si on doit effectivement avoir un déploiement de forces européennes en Ukraine ou quelque part, je ne sais où, pour consolider ou en tout cas pour vérifier la mise en place d'un accord de cessez-le-feu qui aurait été négocié avec nous, parce qu'il est hors de question qu'on aille...
La question est toujours en suspens. Trump joue au chat et à la souris sur la participation des Européens.
Oui, mais moi, je pense qu'on y sera pour une raison simple, c'est qu'il faut lever les sanctions. Et que les Américains veulent lever les sanctions avec la Russie, il faut que les Européens, à leurs yeux, le fassent aussi. Et donc, ne serait-ce que pour ça, on sera à la table. Mais s'il y a cette opération, moi, je trouverais intelligent et utile que l'on invite des partenaires du Sud à se joindre avec nous pour la défense de la souveraineté et du droit international. Si on a un accord qui est validé par les Nations Unies et un déploiement avec un mandat des Nations Unies, on pourrait demander au Brésil, par exemple, ou à l'Inde, ou au Maroc, enfin à des pays du Sud, de nous rejoindre, un pays africain aussi, s'ils sont volontaires. Donc voilà, je trouve que l'idée en général est bonne, mais qu'on a aussi une occasion peut-être dès maintenant de la mettre en œuvre.
Associer des pays non occidentaux et aussi dans cette force de maintien de la paix, ce qui, exactement, d'une certaine manière, nous protégera face à la Russie. Comment voyez-vous, à propos de la guerre d'Ukraine, à quoi peut ressembler la guerre d'Ukraine cette année ? Elle va continuer, Jean-Pierre Mouly ?
Elle va continuer, tant pis, de toute façon, on n'aura pas un accord. Maintenant, il y a la question de la forme de l'accord, qu'est-ce qu'on met dedans ? Est-ce que c'est un cessez-le-feu ? Est-ce que c'est véritablement une vraie paix avec une nouvelle architecture de sécurité en Europe ? Si c'est uniquement un cessez-le-feu, c'est quand même pas une bonne chose, à mon avis, pour les Européens, sans garantie de sécurité américaine. Bon, j'avoue que je suis un petit peu dubitatif si c'est uniquement ça. Si c'est un véritable accord de paix, ben, il faut que véritablement les Européens soient à la table des négociations, parce que l'architecture de sécurité, c'est à nous de la faire. Mais faire une architecture de sécurité avec un accord de paix, c'est à nous de la faire également, si je puis dire, avec les Russes. Parce que quand on négocie, on est deux. Je vous avouerai qu'on n'est pas, pour le coup, on n'est quand même pas très bien positionné, parce que on n'a plus maintenu de canaux de dialogue avec la Russie. Et donc ça va être quand même extrêmement difficile à mettre en place. Or, ce serait quand même nécessaire. Et quand on est encore une fois dire mettre en place des canaux diplomatiques avec la Russie, ça ne veut pas dire devenir pro-Poutine ou accepter ce que demande la Russie. Ça peut être en position de force. Ce qui a été dit d'ailleurs dans la réunion qui a eu lieu à Paris, c'est que la paix doit être obtenue avec une position de force de la part des Européens. Bon, tout ça pour dire que on n'est quand même pas très bien positionné par rapport à ce qui va se dérouler. Je reviens à l'accord de paix. On peut très bien avoir une situation où finalement on va au-delà de simplement d'un cessez-le-feu et on dit de toute façon, il y a des nouvelles frontières en Europe. Dire qu'il y a des nouvelles frontières en Europe, ça ne veut pas dire que ces frontières sont intangibles. Il faut se rapporter, encore une fois, à la conférence d'Helsinki de 1975, quand on était en conflit avec l'URSS, on avait dit que les frontières, elles peuvent très bien se modifier autrement que par la guerre. Et qu'est-ce qui s'est passé en 1989 ? On a refait la frontière, si je puis dire, des deux Allemagnes, sans tirer un seul coup de feu. Il faut bien voir que les Russes, même si les Russes ont un contrôle de la partie est de l'Ukraine, est-ce que ça veut dire qu'ils seront dans une situation, finalement, j'ai envie de dire, si facile que ça, vis-à-vis de cette partie est de l'Ukraine ? C'est pas si certain que ça. Hein. Donc, il faut parfois se dire... Bon, je lâche quelque chose, mais je ne perds pas par rapport au futur. Et se dire que le futur, il n'est pas joué. Je pense que c'est important aujourd'hui, de pour le coup, de se projeter beaucoup plus loin qu'un accord, plutôt de la situation qui résultera d'un accord de paix.
Nicole Nisotto, je vous fais réagir. C'est vrai que la question des territoires occupés aujourd'hui par la Russie dans l'est de l'Ukraine, ces territoires conquis, ça va être difficile pour l'Ukraine de ne pas faire cette concession. Et j'avais aussi cette question que me suggérait le propos de Jean-Pierre Molny. Est-ce qu'il faut regretter que ce ne soit pas les Européens qui aient renoué le dialogue avec Poutine ?
Alors... Moi, je suis un tout petit peu en désaccord quand même avec la vision de Jean-Pierre Monny. D'abord, la question de l'architecture de sécurité avec la Russie, elle est maintenant renvoyée au calendrier grec. C'est-à-dire, la Russie est une menace pour l'Europe. Et ça n'est plus une menace pour l'Amérique. C'est une menace pour l'Europe. C'est quand même tout à fait différent. Et donc, un certain nombre de pays européens, en premier lieu les Polonais, les Baltes, etc., ne voudront jamais reprendre un processus d'Helsinki ou une coopération, en tout cas, pas avant très longtemps. Et donc, je crois que la priorité, c'est pas de penser à un canal de discussion avec les Russes, c'est quand même, effectivement, de faire en sorte que l'accord de paix ou de cessez-le-feu qui sera signé sur l'Ukraine ne sert pas de précédent négatif pour la future situation de sécurité et que serait un accord qui servirait de précédent positif, c'est celui qui dit d'abord ce que vous dites, c'est-à-dire que les frontières sont toujours modifiables par la négociation, jamais par la force, mais par la négociation, mais que la souveraineté d'un État et l'intangibilité des frontières acquises sont des principes de base du droit international. Voilà. Et donc, sur les territoires, votre question, Marie-France. Sur la Crimée, moi j'ai toujours dit, l'Occident et l'Amérique en premier a laissé faire en 2014 quand la Russie a annexé la Crimée. On a mis des sanctions, mais c'est tout. On n'a pas dit qu'on allait lui faire la guerre et qu'il fallait... voilà. Donc on a accepté, sinon déjuré, en tout cas de facto, le fait que la Crimée devienne russe. Aujourd'hui, dans un accord de cessez-le-feu ou de paix, on ne peut pas revenir sur cette position. On n'a rien fait pendant 10 ans. On ne va pas dire maintenant aux Russes, vous lâchez la Crimée. Je veux dire, ce n'est pas une base de négociation. La base de négociation, c'est de monter très haut les enchères pour obtenir un peu. Mais là, il n'y a pratiquement pas d'enchères, puisqu'on l'a laissé faire. En revanche, sur les autres parties de l'Ukraine et sur une partie du Donbass, oui, là, il peut y avoir négociation, perte de territoire, mais... C'est là où les affaires économiques et les affaires stratégiques sont très mêlées, parce que les accords que l'Ukraine peut signer ou signe avec les États-Unis et avec d'autres pays européens, avec la France par exemple, j'entendais M. Lecornu nous expliquer que depuis le mois d'octobre dernier, il y a des négociations entre la France et l'Ukraine justement pour l'utilisation ou l'exploitation des terres rares également en Ukraine. Autrement dit, s'il devait y avoir une forte présence américaine d'ingénieurs, d'économiques, de banques, etc., sur des territoires qui sont, entre guillemets, occupés aujourd'hui par les Russes, eh bien, ça rend tout ça extrêmement confus, extrêmement complexe. Est-ce que ce sera encore des territoires russes si l'Amérique les exploite ? Est-ce que on est dans... Certains territoires vont être, à mon avis, dans une espèce de non-droit, de quelque chose qui, en termes militaires, est occupé par la Russie, mais en termes économiques, sera exploité par l'Amérique, et en termes juridiques, sera quelque part en Ukraine. Donc, je crois qu'il ne faut pas empêcher, il ne faut pas renoncer à une certaine ambiguïté. Très souvent en diplomatie, les diplomates disent la meilleure solution à un conflit, c'est l'ambiguïté, justement. Ce n'est pas d'avoir des choses claires et nettes. Alors, je dis ça, je suis parfaitement irresponsable, facile pour moi de le dire, je n'ai aucune responsabilité. Mais je crois que si on mélange les aspects stratégiques, les aspects économiques, on peut arriver à une situation pour les territoires, notamment le Donbass, qui soit tellement confuse que finalement la souveraineté de l'Ukraine serait protégée et la, entre guillemets, conquête de la Russie également entérinée. Je me demande si cette ambiguïté n'est pas une solution de sortie. Dernier point, si je peux. Moi, je pense que les choses se feront en deux temps. On aura d'abord un cessez-le-feu parce que Trump veut aller vite, il veut se débarrasser de cette histoire. Il en a assez de l'Ukraine, il veut s'occuper de la Chine, etc. Mais bon, il faut que ce soit bien un bon accord. Et ensuite, les diplomates prendront leur temps, je pense, pour négocier un vrai traité de paix durable, etc. Il me semble que les choses se feront en deux temps parce que Trump est pressé et on lit partout qu'il veut avoir le prix Nobel de la paix. Mmh. Donc, il faut qu'il ait quelque chose à montrer pour ça.
Donald Trump est pressé. Jean-Pierre Moulny, en guise de conclusion, sur une minute.
Oh, la conclusion est très difficile. Non, je pense qu'on a véritablement une porte qui s'est ouverte vers un nouveau monde. C'est la conclusion, c'est qu'on a changé d'époque stratégique.
Mauvais monde.
Un nouveau mauvais monde.
Très dangereux en tout cas, très très dangereux et il faut absolument pour le coup que les Européens soient quand même le plus unis possible et prennent conscience véritablement de cette nécessité de s'affirmer. Parce que sinon, on va véritablement être dans une situation où on est économiquement, industriellement, en termes de visibilité politique, véritablement, on a une sorte de risque de disparition. Il faut vraiment faire très attention à ça.
Merci Jean-Pierre Moulny. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Merci aussi à Nicole Niesoto, vice-présidente de l'Institut Jacques Delors et professeur émérite au CNAM. Son dernier ouvrage, Choisir l'avenir, 10 réponses sur le monde qui vient, au CNRS édition. Géopolitique qui était signé Marie-France Chatin, David Brocouet à la réalisation et Raphaël Pouxva. Vous êtes bien sur RFI, place au journal à